Page arrachée à Goliard de Sapienza.
Goliard de Sapienza.
Texte choisi et présenté Goliard. Par Frédéric Martin.
Goliard.
Deuxième épisode.
La révolte de Gabin. Moi, Jean Gabin, est sans doute le texte le plus déroutant de Goliard de Sapienza, mais aussi le plus extraordinaire. Véritable testament philosophique qu'elle écrit à la fin de sa vie, ce texte est si particulier qu'il est difficile d'en définir le statut littéraire. Est-ce un témoignage, un récit, un roman? Sans doute les trois à la fois. Pour bien comprendre Moi Jean Gabin, sans doute faut-il aussi revenir sur la situation familiale de Goliard de Sapienza. Né dans les années 20, retiré des écoles très tôt par ses parents qui refusaient de la voir grandir dans des écoles fascistes, elle se retrouve dans les quartiers les plus humbles de Catane, sa ville natale, entourée de milices fascistes et de chemises brunes qui veulent sa peau et celle de sa famille. Aussi, lorsqu'elle sort d'une séance de cinéma où elle voit Gabin dans Pépé le Moko, brigand magnifique pris au piège de la Casbah d'Alger, va-t-elle s'identifier à cet homme et dire « Iyo Jean Gabin, c'est moi Jean Gabin ». Et c'est ainsi que le texte devient le théâtre d'une vie, où on va tour à tour rencontrer Gabin et les deux figures mythiques de son enfance, qui sont son père et sa mère. Le père, être extravagant, un peu coureur de jupons et avocat des pauvres, et sa mère, d'une probité intellectuelle et morale si forte qu'elle en devient presque écrasante pour la jeune femme qui était Goliard de Sapienza.
Moi, qui ai appris de Jean Gabin à aimer les femmes, je me trouve maintenant avec la photographie de Margaret Thatcher devant moi. Dans le journal, bien entendu, qu'en bonne citoyenne d'après la Révolution française, j'achète tous les matins. Et je commence à penser que quelque chose est allé de travers durant ces 30 dernières années de démocratie. Jean Gabin ignorait tout cela, les dames de fer, les femmes policiers, les soldates et les culturistes. Ses yeux bleus, ceux de Jean bien sûr, rêvaient d'une femme qui serait comme un fleuve. Un grand fleuve languide et vertigineux s'en allant nourrir la mer de ses eaux limpides. Voilà ce que j'ai appris de lui. Et pour moi, la femme a toujours été la mer. Entendons-nous bien. Pas une mer dans un élégant cadre doré pour fanatiques du paysage, mais la mer secrète de la vie. Aventure magnifique ou désespérée, cercueil et berceau, sibylle muette et sûre réponse, espace immense où mesurer notre courage d'individualiste endurci à nous, voleurs du riche et bienfaiteurs du pauvre, d'accord sur une phrase brève et précise, toujours en dehors de tous les pouvoirs établis. Seul, mais avec l'orgueil de connaître la rectitude propre aux outsiders. Seul. Déambulant d'un pas court et énergique, éclatant de courage altier, j'adaptais mes petits pieds à la démarche pleine d'autosuffisance virile de Jean Gabin, en fixant les yeux ténébreux de ma casbah de lave et la métamorphosant instantanément en l'enchevêtrement d'une resplendissante clarté de sa casbah à lui, l'œil attentif au mouchard qui toujours, parmi tant de visages sûrs et souriants, pouvait se cacher ou surgir à chaque recoin plus sombre, à chaque basso un peu plus ouvert que les autres. Mais l'attention permanente au danger, devenue désormais pour moi, depuis que j'allais au cinéma Miron, une seconde nature, ne m'empêcha jamais de rêver à la femme de ma vie, qu'un jour je rencontrerais dans des circonstances pleines de magie. Elle, fragile, réservée, muette et mystérieuse, peut-être un peu ambiguë, bien sûr, mais pure. Fondamentalement pure et transcendante. Poursuivie par une brute qui l'embobinerait avec des mirages de vie luxueuse, de villes étincelantes, de colliers et de bracelets de perles, ou qui lui ferait un chantage implacable pour quelques fautes anciennes commises par son père, ou sa mère, ou son frère, innocente mais née pour expier. Cela seulement parce que la nature destin l'avait créée trop belle, trop sensible et parfaite pour la canaille commune qui, envieuse, voulait la posséder et la détruire. Ce devait être ça. Et satisfaite de ma découverte, j'accélérais le pas en me mettant à siffler doucement. Arrêtons avec le destin, le diable, les madones. Voilà la faute de mon émir, être trop belle, pure. Et en conséquence, un appel involontaire à la mocheté et à la cruauté minable de la masse. Il suffisait de détacher les yeux de l'écran où, blanche et ouatée, dans le halo de lumière du regard de Jean, elle s'efforçait de ne pas pleurer et de ne pas dire le nom de son tortionnaire. Il suffisait de détacher le regard, disais-je, de ses yeux tristes à peine voilés de larmes retenues et d'observer le parterre pour comprendre que tous ces laiderons, mâles et femelles, cachaient sous leur fausse admiration la haine pour la perfection de ce visage qui les humiliait. De fait, Conchetta, cette petite bigote difforme, avait osé murmurer entre deux scènes à sa mère, crétine comme elle. « Celle-là, je la sens pas. Celle-là, elle va le faire trucider en continuant comme ça. » Concluant, « Elle me plaît pas, c'est une sainte touche. » Bien sûr, aux paroles de cette bigleuse de Conchetta, je m'étais retournée d'un seul mouvement et avec un regard de feu, je lui avais craché à la figure un « Tais-toi, idiote, ne dérange pas la projection !» qu'il avait fait taire, bien que frémissante de la haine médiocre des lâches. Et plus tard, en sortant, quand mère et fille avaient surgi menaçantes devant moi, je m'étais ouvert le passage d'une bourrade, sans trembler, prête même à les rosser méchamment. C'est sûr, personne ne pouvait en ma présence rire ou mal parler d'elle. Mais ce sont là des bricoles, je ne vois pas pourquoi j'en parle. Je sentais monter en moi une bien autre fureur en laissant ces imbéciles hurlantes et furieuses. La mère, dite la Cagna, la chienne, était presque tombée sous ma bourrade. La fille se serrait un bras bien, bien fort. J'aurais fait bien d'autres choses pour la protéger. Elle, mon miracle de la nature. J'aurais défié des foules hurlantes de Conchetas, des ruelles entières de foules, de policiers et de fascistes, de brutes déguisées en messieurs pour obtenir un regard. Une caresse fugace, à la limite une nuit d'amour dans un petit hôtel miséreux mais propre. Là, au fond, au bout des arcades, dans ce coin reculé où le port finissait et où commençait la mer ouverte, libre, insondable. Pour goûter à cette brève nuit d'amour, je serais peut-être morte. Mais ensuite, on renaissait à d'autres aventures. Derrière le fin grillage suspendu en haut sur le mur de lave, barré par la pauvre bande de papier du cinéma Miron, les grandes photographies délavées par le soleil annonçaient déjà samedi 21, le quai des brumes.
Goliard.
Mais Conchetta, soutenue par la Cagna, sa mère, m'avait déjà dénoncée. Je le sentis en poussant la porte tambour de cette grosse bâtisse qui était ma maison. Flairer le danger à distance est une prérogative de nous, rebelles. Et je ralentis le pas tout en posant de plus en plus durement mes talons au sol pour être sûre de ne pas me retrouver surprise par un assaut, un coup de feu, de brusques éclats de cris. Devant la grosse face de ballon dégonflée du coursier, ratatinée par les humiliations, je me félicitais de mon flair et ne sourcillais pas à son « Maître Sapienza exige votre présence dans son bureau, tout de suite. » Avec deux tout. En songeant à quel point il était dur de vivre dans la casbah où tout se savait en l'espace d'un éclair, toujours avec 36 000 lieux sur vous qui vous dépouillaient de toute intimité et possibilité d'avoir des secrets, première condition pour être vraiment un homme, je traversais les deux immenses pièces sans cesse bondées de clients loqueteux, mais endimanchés comme pour un enterrement, et j'entrais dans l'immense salon vide entièrement tapissé de bibliothèques vitrées toutes pleines de livres brillants au soleil. Ces livres sous verre étaient mis là exprès pour troubler le pauvre client, je l'avais compris depuis longtemps. À moi, Gabin, on ne me la faisait pas. mais le salon était long. Mes jambes tremblaient un peu et je m'arrêtais un instant pour rêver de la grande ville. La grande ville illimitée où il était possible de se cacher, d'être anonyme, d'avoir un secret. Réussirais-je jamais à m'enfuir de la Casbah et à retourner à Paris ? Moi aussi j'avais collé un billet de métro imaginaire de mon Paris imaginaire sur le mur de chaux près de l'oreiller de mon grabat, là-haut, dans la petite chambre sous les toits, près du ciel. Il suffisait de se tourner sur le coussin et de le regarder, ce tout petit bout de papier visible par moi seul, pour rêver.
Mais pourquoi, Goliarda, veux-tu laisser ta belle chambre pour ce trou à rats sous les toits ? Ce n'est qu'une mansarde. Un four l'été, et l'hiver une glacière. Et puis il faudra enlever tout ce capharnaüm.
La voix délicate de ma sœur Licia protestait. Elle craignait toujours pour ma santé, même si c'était avec un tact exquis. Ce tact devait lui venir, en plus du fait d'avoir la bienheureuse connu la grande ville, de sa haute taille et de son front bombé et serein, un peu trop protubérant, murmurait envieuse sa sœur Musetta, pour moi royale. Mais j'avais tenu bon. Je n'avais pas cédé à son charme et toute seule. Je ferai le déménagement toute seule, ne t'inquiète pas. J'avais abandonné enfin cette chambre pleine de stucs et de bibelots au premier étage, l'étage noble, qui dorénavant me paraissait absolument répugnante et bourgeoise pour un garçon traqué et seul tel que je l'étais désormais. Mais cela, c'était du passé. Maintenant, je devais affronter l'avocat, mon père, dont il n'est pas utile de parler parce que tout le monde le connaît ici, ou en bas dans la Civita. Aimé des pauvres et détesté des fascistes, mon père, mais respecté et craint de tous. Alors, petiote, comment se fait-il qu'on donne des bourrades à droite et à gauche ? Tu le sais que la mère de Conchetta assure qu'elle s'est foulée la cheville, etc., etc. Et puis, pourquoi tu fais ça ? Moi, dites-moi si je pouvais répondre d'une autre façon. Jean Gabin aurait fait la même chose. Et lui, me fixant avec des yeux de feu, mais il n'y avait pas à s'inquiéter, mon père, qu'il rit ou qu'il fût en colère, avait toujours un regard de feu. Lui, disais-je, me fait. Ah, Jean Gabin l'aurait fait ! Alors je ne dis rien. Va maintenant que j'ai tant à faire. On s'arrangera avec Conchetta. C'était mon avocat à ce moment-là et pour un instant j'en fus fière. Mais tandis que je montais le petit escalier raide qui menait à ma chambrette, le soupçon que Jean n'avait jamais eu d'avocat pour le défendre m'assaillit avec force. Il faut que je revoie tous les films, pensais-je en me jetant sur le lit de camp. Et je me retournais vers le mur pour me reposer des fatigues de la journée et venir à bout de ce soupçon. Revoir les films de Jean Gabin, je savais comment faire. En fermant les yeux, je repassais une à une toutes les scènes sur l'écran de la mémoire, très puissantes chez moi, comme du reste chez tous ceux qui gagnent leur pain et leur liberté au jour le jour. Pour être bandit, voleur ou simplement rebelle, il faut avoir par-dessus tout de la mémoire. Autrement, on est foutu. Je ne fermais pas l'œil. L'avocat ne devait absolument pas me représenter parce que, comme je l'avais soupçonné, Gabin n'avait pas assez d'argent pour se permettre un avocat du calibre de mon père. Je mourais de sommeil, mais je voulais que vienne vite le matin pour aller voir l'avocat et le dissuader de prendre ma défense. Quand je me souvins de l'affiche du cinéma Mironet, ce quai des brumes, je ne l'avais pas encore vu. Peut-être que dans ce film, Gabin, exactement comme moi, rencontrait par hasard un homme d'honneur qui le prenait en sympathie, comprenant l'honnêteté foncière de son être, ou peut-être que lui aussi avait sans le savoir un père avocat, qui sait. Je décidai donc de remettre ma décision à plus tard et de dormir un peu en paix. Tout pouvait arriver avec ce Jean Gabin. Que de vie et quelles expériences! C'était autre chose que mon père. Que le professeur Isaiah, que Carlo. Peut-être mon oncle Alessandro, qui avait, à l'aide de ses seules mains, parce qu'il se promenait toujours désarmé, lui aussi était contre la violence, tué bien 5 fascistes. 5. Oh ! Comment est-ce que ça avait pu se passer ? La voix berçante d'Ivanhoé me le racontait cependant qu'il me montrait sa photographie.
Tu vois, Goliarda, il était ingénieur agronome et se trouvait, à l'époque des milices fascistes, dans les caves pour contrôler le vin quand sa grand-mère, une femme dure, sévère, mais athée, et qui fut la première en Italie à élever sa fille comme un homme. Souviens-toi que tu es la quatrième génération d'athées.
Qui sait si Gabin était athée? Voilà encore autre chose à vérifier.
Sa grand-mère, donc, alla l'appeler, mais sans hâte, en disant seulement « Alessandro, là-haut, devant la ferme, il y a ces messieurs, avec leurs matraques qui terrifient nos paysans. Vas-y, et vois ce que tu peux faire. » Alessandro remonta à l'air libre, ôta la matraque des mains de l'un de ces messieurs, et avec cette même matraque leur fracassa le crâne. Quand Alessandro eut fini de donner une leçon à ces messieurs, sa grand-mère, tenant de son bras tendu la lampe au-dessus de sa tête pour éclairer la scène, la nuit était tombée entre-temps, cria aux paysans qui avaient assisté en cercle muet et tremblant au combat. « Et maintenant nettoyez le terrain de toute cette saloperie qu'Alessandro a dû faire à cause de votre lâcheté. Allez, au travail. »
Non, Gabin ne versait pas le sang et n'avait pas de grand-mère, lui. Tout au plus, en saisissant par la peau du cou quelqu'un de vraiment déloyal, il le balançait en l'air pour l'effrayer, voilà. Et puis l'oncle Alessandro était d'une autre époque. On le voyait au jaunissement des années qui gagnaient sur le brillant de la photographie, alors que Gabin était d'aujourd'hui, moderne. Les photographies en mouvement des films, Goliarda le savait que ce n'en était pas moins des photographies, avait l'éclat et la netteté du moment précis où la vie-action éclot, fleurit, croît encore, meurt. J'avais à peine fermé les yeux pour dormir que le matin frappa fort à mes paupières, me rappelant à mes devoirs. D'un mouvement énergique, j'enfilai un tricot sur mon haut de pyjama. Quand j'étais épuisée de fatigue, je ne me déshabillais même pas. Ça, c'était bon pour les petites filles paresseuses et nunuches. Et me jetant d'un geste aussi rapide une écharpe autour du cou, les escaliers et les couloirs de cette grosse bâtisse étaient glacés, je me précipitai hors de ma tanière pour agir. Dans le doute, il fallait attendre trop de jours pour que je puisse mettre au clair l'affaire Quai des Brumes. Je devais traquer l'avocat et lui dire de ne pas s'immiscer davantage dans mes affaires. Tina la folle, la femme de ménage, nous ne disions pas la bonne comme faisaient les Bruno. Patronne de la cuisine, vrai antre de bandits où l'on pouvait obtenir un plat de spaghettis, une ou deux saucisses et du lait, bien entendu quand il y avait toutes ces bonnes choses. Parce qu'en général, soit la bande de mes frères avait déjà tout avalé, soit les provisions n'avaient pas été faites. Soit on n'avait plus un sou et chacun devait s'arranger comme il pouvait. « Tina, disais-je, avec ses gros yeux d'un noir d'encre toujours terrorisé, sa folie était due, semble-t-il, au fait d'avoir tué sa sœur et son fiancé parce qu'ils avaient couché ensemble. Etc., etc., avait-il à l'ordre du jour dans notre casse-bar. Tina, donc, me fait, en me flanquant une tasse de café et du lait sous le nez, « Pauvre pitchounette, il y a Madame Maria qu'elle veut te parler. Mange vite et file dans sa chambre. »« Mange, vite, file. » Là aussi, du désespoir comme du noir d'encre passe dans les mots chantants. Bof, qui comprend quelque chose avec les petites femmes, pensais-je, tandis que j'avalais mon lait en m'y noyant presque, comme toujours quand quelqu'un m'informait que ma mère Maria voulait conférer avec moi. Je ne m'attarde pas à parler de Maria parce qu'elle aussi, exactement comme mon père, est archi-connue ici dans la Civita, et je n'ai pas de temps à perdre. Elle m'attend, et ça doit être important si de si bonne heure elle a décidé de sacrifier son temps avec moi. Elle étudie sans cesse. À ces mots, je me mets en rage contre moi-même en pensant « Est-il possible, Yudza, qu'à chaque fois tu te fasses prendre par la peur ou par l'anxiété, si tu préfères, quand tu sais exactement ce qu'elle te dira ?» Mais ensuite, tandis qu'elle parle encore, le souvenir de la façon dont lui aussi Gabin s'émeut quand il doit rencontrer la femme qu'il a choisi d'aimer me console un peu. Tous les hommes deviennent faibles devant leur amour. Mieux, plus ils sont durs, virils comme lui, plus ils fondent, tendres et silencieux, devant le visage de l'aimé. C'est ça l'ennui, J'aime cette femme qui, avec douceur, certes, mais avec une fermeté terrorisante, est en train de me dire que je suis coupable. Non seulement coupable envers Concetta, ça ne serait rien, mais coupable envers toute l'humanité pauvre, ignorante et humiliée, parce qu'avec mon geste, je suis passée du côté du patron riche et tortionnaire. Je me mettrais à pleurer devant cette culpabilité qui est la mienne, si la sonorité éclatante de la voix de Maria, la grâce savante avec laquelle elle enfile phrase sur phrase, jusqu'à composer un dessin magnifique dans sa forme et son contenu, ne m'enthousiasmait pas au point d'avoir envie de me jeter à son cou et de lui dire « je t'aime ». Voilà la femme que j'aurais pu aimer. Voilà la femme que Jean n'aurait pas pu ne pas aimer s'il l'avait rencontrée. Mais pour moi c'est différent, c'est ma mère. Et refermant les bras sur ma poitrine pour ne pas faire de gestes imprudents, je serre contre moi cet amour que je ne peux extérioriser. Et je souffre d'abondance, comme tous les hommes dignes de ce nom souffrent pour un amour qui leur est refusé, c'est-à-dire profondément, éperdument, mais en silence. Pourquoi te tais-tu, ma chérie? Peut-être penses-tu que j'ai tort? S'il en est ainsi, dis-le. Tu ne dois te soumettre à personne, et moins que quiconque à ton père ou à moi. Si quelque chose ne te convainc pas, rebelle-toi toujours. Tu ne réponds pas? Ou peut-être as-tu mal à l'estomac pour te serrer comme ça les mains sur le ventre? Que pouvais-je répondre à tant de douceur et d'altruisme? À chaque mot, à chaque ondulation harmonieuse de sa voix, elle s'élevait devant moi et en moi, dans mon admiration, comme le char de Sainte Agathe en procession, de plus en plus haut avec son manteau de ciel criblé d'étoiles. Nous étions athées, mais nous n'en tenions pas moins en grand respect les usages populaires qui ont leurs racines dans les profondeurs de l'histoire et que ce petit crétin de Jésus-Christ n'a fait qu'exploiter pour son projet. Là-haut, jusqu'à rejoindre l'ardent ciel noir de l'été, tandis que pétard et cloche me fracassaient la tête et la poitrine en me criant « Elle est trop belle et trop pure pour toi, tu ne l'auras jamais !» Bref, je sombrais muette dans l'ignominieux cynisme et la suffisance, la passion bestiale et l'indifférence à la grande souffrance du monde. C'était là le mal de nous autres sapienza, levantins, libidineux, obsédés par la recherche de notre moi, individualistes endurcis à la parole prompte et sarcastique, la rapière à portée de main pour nous faire valoir. Nous étions de la merde comparés à elle.
C'était Page arrachée à Goliarda Sapienza.
Texte choisi et présenté par Frédéric Martin.
Traduit de l'italien par Nathalie Castagnier.
Avec Garance Clavel, Goliarda.
Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.
Prise de son, montage, mixage, Emmanuel Armang, Claude Niort.
Bruitage, Bertrand Amiel.
Assistant à la réalisation, Félix Levacher.
Réalisation, Laurence Courtois.
Moi, Jean Gabin, de Goliarda Sapienza, est paru aux éditions Le Tripode.